Bonjour Éric Biégala.
Bonjour
Guillaume.
Votre
revue de presse internationale débute avec une attaque au camion à Toronto.
Oui, cette attaque au camion à Toronto, il est assez difficile d'y échapper. La très grande majorité des médias ouvrent leurs journaux ou font leur une ce matin sur cette attaque qui a fait donc, rappelons-le, 10 morts et 15 blessés dans ce que le New York Times appelle un véritable carnage. Un carnage qui, évidemment, souligne le quotidien new-yorkais, rappelle les attaques mortelles similaires par des soutiens de l'État islamique qui ont ébranlé Nice, Berlin, Barcelone, Londres ou New York. Pourtant, lundi soir, le ministre canadien de la Sécurité publique, Ralph Goodale, annonçait que cette attaque-là n'était pas pareille, qu'elle n'avait pas de lien avec des questions de sécurité nationale, précise la chaîne canadienne CBC. Le conducteur de la camionnette de location a été arrêté une demi-heure après les faits. Un policier de Toronto a pu le mettre en joue, puis lui passer les menottes sans tirer le moindre coup de feu. Arrestation filmée par plusieurs passants, des images que l'on retrouve ce matin sur pratiquement tous les sites d'information. L'homme a été identifié comme un résident de Richmond Hill, dans l'Ontario, Alec Minassian, 25 ans, et ses motivations restent obscures. La chaîne CBC a pu retrouver sur les réseaux sociaux une page où un même Alec Minassian faisait l'apologie d'un autre responsable d'une tuerie de masse en Californie il y a 4 ans. Un étudiant qui, en tuant 6 personnes, entendait se venger de ses déconvenues amoureuses. Sur Facebook, Alec Minassian annonçait que la révolution des célibataires involontaires venait de débuter.
Et en Arménie, c'est une journée de liesse dans la capitale Erevan après la démission surprise du Premier ministre.
Sarkissian a en effet jeté l'éponge après 11 jours de manifestations demandant son départ de la tête de l'exécutif. L'ancien président arménien, qui ne pouvait plus se représenter à ce poste au terme de deux mandats, avait en effet réussi à se faire nommer Premier ministre la semaine dernière, une fonction dont les pouvoirs avaient été considérablement renforcés. Et depuis lors, la rue réclamait son départ. Et c'est par un communiqué que Serge Sarkissian a annoncé finalement sa démission hier. « Citoyens d'Arménie, vous avez gagné !» a lancé en réponse à la foule Nikol Pashinyan, l'un des leaders des manifestations, une heure après cette annonce, raconte le site d'information arménien hetk.am. Pashinyan, qui avait été arrêté la veille et relâché quelques temps avant l'annonce de la démission de Sarkissian, est retourné place de la République, l'épicentre de ces manifestations, sous des tonnerres d'applaudissements. Il demande des négociations avec le gouvernement intérimaire, qui expédiera les affaires courantes, et surtout l'organisation d'élections anticipées. « La révolution de velours que nous avons entamée n'est pas terminée », a encore lancé le leader d'opposition, raconte Hetk. Ces manifestations pacifiques ont sérieusement agité l'ancienne République soviétique de 3 millions d'habitants, un allié de la Russie dans cette région volatile du Caucase, gangréné par le conflit persistant entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour du Nagorno-Karabakh, souligne Radio Free Europe, Radio Liberty. Des manifestations qui ont été un exemple assez rare d'événements entraînant un changement politique majeur dans l'ancienne Union soviétique, poursuit la chaîne américaine. La Russie, en effet, dispose encore d'une importante présence militaire sur le territoire arménien et regardait les événements d'Erevan avec une certaine appréhension. On connaît aussi les préventions d'un Vladimir Poutine vis-à-vis des révolutions de couleur dans les anciennes républiques soviétiques. Mais pour le moment, remarque encore Radio Free Europe, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe a fait montre d'une certaine modération, se contentant d'un message général de solidarité avec l'Arménie suite à la démission de Sarkissian.
Enfin, dans le Golfe, au Yémen, c'est l'annonce de la mort d'un des principaux leaders des Houthis qui a fait les gros titres de la presse locale.
Oui, l'information n'a été confirmée qu'hier. Le leader politique des Houthis, Saleh al-Samad, a été tué jeudi dernier dans un raid aérien de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite. C'est le leader militaire du mouvement yéménite, Ansarullah Abdelmalek al-Houthi, qui a confirmé la mort en martyr du président du Conseil politique suprême du Yémen, explique ce matin la chaîne iranienne Presse TV, proche des Houthis. Un crime qui ne restera pas sans réponse, a promis le chef militaire des Houthis. De son côté, la chaîne saoudienne Al Arabiya a diffusé des images de l'opération, le ciblage très précis d'un véhicule en pleine ville par un avion probablement saoudien. Saleh al-Samad est le plus important des chefs Houthis à avoir été tué depuis que la coalition appuyée par l'Occident est intervenue au Yémen en 2015, rappelle la BBC. Il présidait le Conseil politique suprême qui assumait les fonctions d'administration dans les zones du pays contrôlées par les rebelles, incluant la formation d'un gouvernement, la nomination des gouverneurs et la rédaction de décrets gouvernementaux. Pour Presse TV, Saleh al-Samad n'était ni plus ni moins que le chef de l'État de facto du Yémen. Pour Raji Badi, un porte-parole du gouvernement yéménite en exil, soutenu lui par l'Arabie Saoudite, il a qualifié sur Al Arabiya cette disparition de coup dur pour les Houthis, compte tenu du background politique de Saleh al-Samad et surtout de sa capacité à nouer des alliances politiques. Sur Twitter, l'analyste Peter Salisbury remarque que cette disparition conforte la position des éléments les plus intransigeants et les plus militaristes dans le camp Houthi. À vrai dire, en tuant Saleh al-Samad, la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite s'est privée là d'un des seuls interlocuteurs d'une possible négociation de paix, laquelle apparaît de plus en plus évanescente.